RMC, Intégral Tour.
J'adore rouler. Pignon fixe. Pas de frein. Je peux pas arrêter.
Virginie Fulpin.
De toute façon, je veux pas.
Y'en a que pour toi et ton vélo, t'es qu'un égoïste.
Il est 20h04 sur RMC, l'intégral tour jusqu'à 21h. Je vous rappelle les principales infos sport de la journée. Johan Diniz, forfait pour les mondiaux d'athlétisme de Pékin au mois d'août. Le marcheur est blessé. Et puis on connaîtra le successeur de Sepp Blatter à la tête de la FIFA le 26 février 2016. C'est ce qui a été annoncé au comité exécutif aujourd'hui à Zurich. Sepp Blatter ne se représente pas. Michel Platini, lui, se donne 15 jours pour décider s'il sera candidat ou pas. Luc Leblanc et Thierry Bourguignon sont là, fidèles au poste. Bonsoir, rebonsoir à tous les deux.
Salut Virginie.
Alors on entame ensemble notre dernière semaine du Tour de France. J'allais dire que c'est un peu agité. Ouais. Il reste une semaine hein, quand même les gars, donc on va essayer de se détendre un petit peu, non?
Ah oui, mais on va se détendre.
Ah oh oui, tendu. Mais je plaisante. Je plaisante.
Il y a une discussion, il y a du débat.
Mais on est là pour ça. Hein. Nous,
puis,
c'est vrai qu'on aime bien.
Il fait chaud sur le tour.
Il fait chaud sur le tour, ça échauffe un petit peu les esprits aussi. Oui. Il y a une journée de repos demain, ça va faire du bien. Les Alpes, arrivées sur les Champs-Élysées en ligne de mire. On vous attend hein, au 32-16 sur Twitter, hashtag RMC Live. On va reparler bien sûr des propos de Lucho qui font beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Hein, notamment sur Twitter, Lucho, on va en parler tout à l'heure, mais on va quand même.
T'as tweet, t'es tweet
Lucho. Oh, mais ça s'entend tant que ça. Le petit oiseau là. Mais on va aussi parler de cette 16e étape qu'on vient de vivre avec notamment le show Peter Sagan. Michael nous appelle au 32-16. Bonsoir, Michael.
Oui, bonsoir, Virginie. Bonsoir, Lucho. Bonsoir, Thierry.
Bonsoir, salut, Michael.
Moi, Sagan, il m'a encore impressionné aujourd'hui. Hein. Cinquième fois deuxième, il a un sacré mental, quand même. Il est très fort. À sa manière, comme a dit Oleg Tinkov, à sa manière, il est quand même très fort. Hein. Il est même, le plus fort du tour à sa manière, hein, parce que vraiment, il baisse pas les bras, quoi. C'est incroyable.
Non, c'était un funambule aujourd'hui. Ce qu'il a réalisé tout. C'est vrai que pour les cyclistes, surtout pour les jeunes, les écoles, de regarder un petit peu la descente de Sagan, c'est un moment très très fort sur le tour.
Et puis c'est vrai que c'était Cyril qui avait dit ça il y a 2-3 jours. Quand vous faites 1, 2, 3 fois deuxième, bon, c'est qu'un problème, mais bon, 5 fois là, quand même, quoi. Il y en aurait plus d'un qui aurait déjà. Débranché dans la tête et qui aurait dit ah oh, merde c'est chier quoi là non pas du tout quoi.
Ah, mais heureusement il a le maillot.
Il a le maillot vert quand même, c'est une belle compensation.
Et puis il va garder jusqu'à Paris.
Compense. Oui. Là c'est bon, il est accroché à ses épaules et ils vont pas lui enlever. Hein.
Et puis moi je lui donne ma voix pour être super combatif du tout. Hein. Je pense que quand même. Il mérite hein, ce prix quand même. Hein.
Non mais c'est chapeau, plus que la descente, plus que tout, un gars qui fait 3 étapes de suite et en plus pas des petites étapes. Hier c'était le plus facile en fait, mais avant-hier Mende et aujourd'hui fallait les grimper ces petites bosses, même si c'était pas des grands cols pour un Sagan, c'était pas du gâteau et ils l'ont pas déboulonné. Il y en a un qui est arrivé.
À la fin du tour, on pourra quand même lui tirer un grand coup de chapeau à Sagan hein, dans une semaine, hein, parce que 4e maillot vert consécutif, il est, hein, c'est un grand coureur. Hein, il lui manque plus que qu'est-ce qu'il lui manque encore à gagner.
Championnat du monde.
Oui, voilà, c'est ça, ouais, presque ça, ouais, c'est ça. Un titre mondial et puis c'est tout. Ah ouais, ça couronnerait vraiment sa carrière. Il est jeune encore. Hein. Ah, c'est ça en plus, qui est incroyable. C'est qu'il est jeune en plus.
Ouais, il a tout pour lui.
Ah oui, il a tout pour lui, c'est incroyable.
Franchement,
ah oui,
c'est un grand champion.
Il a encore 2 maillots verts, il égale Zabel, et à mon avis, il va le battre hein, pour le maillot vert. Donc bon, voilà.
Merci beaucoup,
super.
Michael.
Merci beaucoup, Virginie, merci.
Merci Michael d'avoir appelé le 32-16. Et puis, ce qu'il a aussi pour lui, Sagan, c'est qu'il est quand même très spectaculaire. Il y est pour beaucoup, par exemple, dans le fait qu'aujourd'hui, on ait trouvé cette étape très intéressante, parce que tout le monde était un peu scotché sur sa façon de descendre.
Sait descendre, il prend des risques, du moins des risques mesurés, parce que c'est un super descendeur, mais c'est un gars qui amène du fun dans le vélo. Et moi, c'est ce que j'adore. Moi, je me rappelle à ses débuts, quand il allait gagner, et il gagnait, il avait des mimiques qui n'étaient pas désobligeantes pour les adversaires, et qui rendaient le cyclisme fun, un peu plus fun que ce qu'il est, parce qu'on a tendance à dire que la route, c'est un peu austère par rapport au VTT et les autres sports. cyclisme. Franchement, moi je le trouve super sympa. C'est un gars qui amène quelque chose au cyclisme sur route.
Est-ce que c'est quelqu'un, enfin, par exemple, si vos enfants sont devant le tour, vous lui montrez Peter Sagan, quoi. Vous leur montrez Peter Sagan pour que... Pourquoi Peter? Je ne sais pas ce que j'ai. Oui. Pikachu, par exemple. Ça doit être ça. Mais non, il peut faire, enfin, il peut servir d'exemple dans le sens où, ouais, ben, c'est des gars comme ça qu'on a envie de voir aussi. Qui mettent, ouais, bah, qui font le spectacle, quoi.
Il lâche rien.
Bah oui, ça, non, mais ça, en plus, voilà, c'est un exemple. Et puis en plus, bon, il a une belle gueule.
Il a tout pour lui.
Il prend des risques. Voilà, il a fait une démonstration extraordinaire aujourd'hui.
Les jeunes
aiment ça, là. Tout ce qui est sensation un petit peu forte, voilà, prise de risque, voilà, ça, ça fait partie de la culture aujourd'hui des jeunes. Et Sagan, je pense qu'il est rentré dans le cœur de beaucoup, beaucoup de jeunes aujourd'hui.
Hein, t'es Lucho? Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déçus là ce soir.
Déçus.
Pour la télévision, ben, il était avec sa copine.
Ah, forcément.
Toutes les fans se sont écroulées, à mon avis.
Alors,
se sont écroulées.
Bon, alors, il a une copine, ça, d'accord. Oh, bah, moi, je m'en suis toujours pas mise.
Non, c'est pas un anglais, t'en as rien à faire.
C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, il a le maillot vert, ils veulent l'amener à Paris, ça on en est à peu près sûr. Mais est-ce qu'il pourrait amener un jour un maillot d'une autre couleur? Je crois que c'est ce que veut savoir Eric au 32-16. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
Bonsoir Eric.
Bonsoir Eric.
Si Sagan perd 2-3 kilos, il ne gagnera plus le maillot vert. Mais est-ce qu'il pourrait monter beaucoup mieux les grands cols?
C'est pas un peu
gagner un jour le maillot jaune? Parce qu'attendez, il est toujours en course pour le maillot blanc. Des jeunes, on le souligne pas assez, ça. C'est-à-dire que dans les 198 ou 200 coureurs au départ, il fait partie des 25 jeunes. Il a déjà 4 maillots verts. Il est monstrueux.
Oui, mais bon, et c'est pas un pur grimpeur, Peter Sagan. Donc, il sera quand même limité dans le. Ouais. Ouais, mais c'était pas le même gabarit que Sagan, quand même. C'est pas le même gabarit.
Et s'il perd 4-5 kilos?
Non, bah, il grimpera un petit peu mieux. Il grimpera un petit peu mieux, mais il pourra pas passer les étapes alpestres sur 2, 3, 4 cols. C'est pas possible.
Pourquoi?
C'est pas possible. Mais parce que il a pas les fibres d'un grand grimpeur comme Sagan ou comme Quintana ou non. Comme Contador ou Nibali. C'est, voilà, il a les fibres plus d'un sprinter, d'un mec qui roule un petit peu à la Sean Kelly, je dirais, à la limite. À la chaîne Kelly de l'époque, où il peut peut-être gagner un Paris-Nice, s'il perd un petit peu de poids, ou voilà, mais il ira pas plus loin que ça dans les grands tours.
Sean Kelly a pas été loin de gagner.
Ah oui, non, pas, mais... ouais, enfin bon, oui, mais
c'est pas
les,
loin,
pas
les grands
tours.
Trop loin.
Ouais. Entre pas loin et gagner, il y a une petite différence.
Ah ouais. Hein, bon. Un loup, on a failli gagner le tour.
Il gagnera jamais le tour.
Non.
Voilà,
non,
au moins. Voilà,
non,
Eric, aussi engage. La Dream Team s'y engage. Peter Sagan ne gagnera jamais le tour.
Bon, je pense
désolé, mais je pense que ça risque d'arriver dans les 3-4 ans qui viennent parce qu'il n'a que moins de 25 ans.
Il a 25 ans.
Bon, alors vous nous rappellerez à ce moment-là.
Ans, oui.
Vous nous rappellerez à ce moment-là si je suis encore là d'ailleurs, parce que je sais pas si.
Bon, non.
On verra bien. Le jour où Sagan s'il gagne le tour, mais vous rappelez RMC et puis Cyril Guimard se fera un plaisir de vous répondre.
Si on le retrouve, hein, parce que là pour l'instant on l'a perdu.
Bah oui, non, je suis toujours là.
Non, on parlait de Cyril.
Merci beaucoup, Eric. Merci d'avoir appelé le 32-16 et à très bientôt. Bah,
quand 96, Ulrich, Leblanc.
Ouais. Ouais.
Voilà, merci beaucoup Eric.
Merci Eric.
Le 32-16. Il y a sur Twitter quelqu'un qui s'appelle Mon nom est personne, c'est comme ça, qui nous dit Sagan est le CR7 du vélo, spectacle à fond, alors que Quintana c'est plutôt Messi par exemple, le talent. Et il dit qu'il préfère le spectacle. Vous êtes d'accord avec ces comparaisons?
Il faut tout pour faire un monde. Il y a les performances pures et l'intelligence de course de certains. Voilà, c'est vrai que aujourd'hui, je pense que Sagan a Cyril l'a dit et je suis pas tout à fait d'accord avec lui tout le temps, mais là, il a il a un peu fait n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il avait tellement envie d'aller chercher cette victoire que ça lui a, ça l'a poussé dans ses retranchements et qu'il n'a pas pris les bonnes décisions? Bon, c'est vrai que, de toute façon, les, dans une échappée, dès qu'il y a Sagan, les gars, ils se donnent pas à fond, hein, non plus.
Ah, mais ça se voyait, ouais, oui, ils avaient
parce
pas envie,
que de
quoi.
Toute façon,
ils savent que, sinon, que c'est si t'arrives
avec lui,
fin,
si t'arrives avec lui dans le dernier kilomètre, t'es mort. Hein? Donc il fallait ce que Plaza a fait, attaquer au pied de la dernière bosse et sortir le maillot vert.
Et puis on dit il a tout pour lui, Sagan, mais il paraît qu'il ne respecte pas toujours les règles d'un peloton. Il n'est pas forcément toujours très agréable avec les autres. Hein, faut le dire aussi.
Ah non, moi j'ai pas entendu ça par contre. Hein.
Non, moi non plus. Ah ouais. Virginie, non,
les ça vous fait encore un point de désaccord avec Cyril Guimard. Non, c'est fait trop là pour aujourd'hui peut-être. Alors j'ai rien dit.
Pourquoi c'est Cyril qui dit qu'il est mal fait?
Que parfois, oui, ça a pu lui arriver de faire des trucs un peu limites, voilà, qui font qu'on n'a pas toujours envie de l'aider. Du coup, quand on se retrouve avec lui.
Je vois le truc parce que Cyril n'aime pas les bad boys.
Ah.
Et on peut le qualifier de bad boy parce qu'il casse un peu les clichés qu'on avait. Fallait être très attentif aux faits et à nos gestes. Lui, bon, il a eu des débordements sur les podiums. Il a fait, non, au sein du peloton, moi, j'ai entendu que du bien de sa part. Hein. Il est au contraire, il amène le fun et les gens
il
sont
une bonne image,
les gens sont plutôt contents. Bon, d'accord.
Ça rajeunit le cyclisme un peu.
Bien sûr. Alors, on a vu notamment grâce à Peter Sagan une belle étape aujourd'hui. En tout cas, Bruno a vu une belle étape aujourd'hui. Bonsoir Bruno.
Bonsoir à tous. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Bruno.
Salut Bruno.
Bruno, est-ce que vous êtes régalé aujourd'hui?
Oui, je me suis régalé et j'ai cru. Je vais faire un petit peu de perspective sur les jours à venir. J'ai la vive sensation que Chris Froome va être attaqué. J'en suis intimement convaincu sur de Nibali, même de Contador, voire de Valverde. Mais j'ai une grosse inquiétude et je voudrais avoir votre avis, Bourgui et Luc. C'est que j'ai l'impression que les 2, les 3, les 4, ils vont se courir après, en fait.
Ah, mais c'est toujours comme ça.
C'est ce qui risque de se passer. Hein.
Malheureusement, c'est ça. Au lieu d'allier et de mettre la responsabilité sur... Pas d'allier les forces contre une seule personne, mais de lui laisser la responsabilité de la course. Eh ben, on l'aide aussi. Et les concours de circonstances font que quand c'est le troisième qui attaque, le deuxième va le chercher. Le troisième attaque, c'est le quatrième qui va le chercher. Ou du moins l'inverse, quatrième qui va chercher le troisième. C'est... Et voilà, mais c'est la course. Tout le monde a envie de défendre sa place.
Froome va profiter de la petite guéguerre pour la deuxième, troisième, quatrième, cinquième place. Voilà, et ça va se passer comme ça dans les Alpes. Alors après, on verra bien ce qui va se passer. Mais c'est comme le dit Bourgui, c'est un petit peu tous les ans la même comédie, quoi. Hein. Le premier, il a fait l'écart, et puis après, tout le monde se bat pour la deuxième, troisième place, et puis le premier du classement général en profite.
Tu sais, Cyril, Lucho.
Non, je suis pas Cyril.
Oh bah alors là on est de mieux en mieux là, je pense.
J'aurais voulu le faire exprès, je ne serais pas arrivé. Non, alors Lucho, du temps d'Armstrong, il a gagné ses sept tours comme ça. Hein. Parce qu'il y a un moment, quand il y avait le feu, il profitait des autres. Alors que moi, c'est ce que je reproche un tout petit peu, c'est que les gars, ils ont leur place à défendre et ils vont chercher leur place.
Tout à fait.
Et plutôt que dire poker menteur, deuxième ou troisième, ça m'intéresse pas. Le quatrième à attaquer, va le chercher, mais là, démerde-toi. Et ça on pourrait, mais bon, c'est le cyclisme d'aujourd'hui et puis ça fait bien longtemps que c'est comme ça, hein. Voilà, faut s'y faire. Les points et puis le Tour de France est tellement prestigieux que une place reste à un gros truc à défendre.
Merci Bruno d'avoir appelé le 32-16.
Merci à vous et j'en profite pour faire de gros bisous à mes deux enfants et ma femme qui mangent en face de moi et on est.
tu les embrasses
directement par-dessus la table, non?
Tu embrasses ton épouse et tes enfants pour de notre part alors.
Merci. Ils veulent la passion du vélo avec moi, donc je leur fais un gros bisou et à tous qui nous écoutent aussi et qui aiment le vélo et vos analyses, et c'est pertinent et on se régale. À bientôt.
Merci, merci.
À bientôt,
salut. Bonsoir.
Merci beaucoup, Bruno. À très bientôt sur l'antenne d'RMC. Par exemple, pour parler de ceux qui suivent Chris Froome au classement, demain, ils vont profiter de leur journée de repos pour mettre au point une stratégie pour les. Parce que là, il leur reste quoi, quelques jours de montagne là pour faire quelque chose, ou est-ce que ils ont laissé tomber?
Ah non. T'as vu l'émission, l'étape d'aujourd'hui, oh Virginie.
Oui.
Où on disait il y a quelques jours, wouf, là c'est bien plié, on le sent. Bon ben ils nous ont redonné un peu d'espoir. La moindre bosse, le moindre descente, ils essaient de mettre en difficulté le maillot jaune et c'est pas mal. Bon après va-t-il craquer, ça on le saura au prochain épisode.
On le saura au prochain épisode. Voilà. Alors.
Demain, il n'y a pas d'épisode.
Demain, on le sait, il y a une journée de repos. Mais justement, c'est la stratégie qui va compter. Là, non, ils vont en parler forcément dans les équipes. C'est le moment où on met en place ce qu'on va faire le lendemain.
Attention, Virginie. J'avais oublié que la Sky prépare beaucoup mieux la journée de repos.
Hein? On va demander à Lucho, c'est le directeur sportif de la Sky.
Je rigole parce qu'il y a Christophe. Mon pote Christophe Cessieux qui est en train de regarder les tweetos. Demander à Luc Leblanc de critiquer le dopage, ce serait un peu comme demander à une dinde de critiquer. Voilà, d'accord.
Une dinde de critiquer quoi?
Noël.
Ah, Noël.
RMC Live. Ouais, Noël. Voilà, Noël. Ben écoute, Noël, on passera Noël ensemble et puis on discutera de ce que j'ai dit tout à l'heure.
Non,
mais Virginie, il y a de tout. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre.
Mais ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça partage beaucoup les gens.
Je peux te dire quand même une personne, s'il y en a une qui est pour moi, quoi.
Mais il y en a, on va en parler. Il y en a, parce que de toute façon, on est obligé de revenir là-dessus puisque ça passionne les gens. Donc, au 32-16, nous avons Pierre et Jean-Marc qui nous attendent. Donc, Pierre, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Virginie, bonsoir Thierry, bonsoir Lucho.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, Pierre, tu voulais revenir sur le dopage ou le dopage supposé, en tout cas des questions qu'on
attention,
se pose à propos du dopage.
Il n'y a pas d'affaire de dopage.
Non, il n'y a pas d'affaire de dopage, bien entendu.
Oh,
On n'a jamais dit ça.
Virginie, tiens, regarde. Seven, je ne sais pas ce que vous buvez ou fumez dans la cabine de RMC, lol, mais visiblement, ça doit être bon, mort de rire.
Ouais, ah ben voilà. Ils ont de l'humour,
Voilà, mais oui.
Les gens qui écoutent
de toute
RMC.
Façon, alors à partir du moment où on a entendu Lucho dire Pierre. Lol à l'antenne, bon voilà, je pense que c'est bon, on est bien.
Et on laisse poser la question.
Pierre, pardon.
Oui. Écoutez, moi ce soir, je m'apprêtais à m'écouter mon petit débrief de l'étape du jour, et j'ai été super contrarié de voir que Lucho s'est pris la tête avec Cyril. Et franchement,
pas grave.
Non, c'est pas grave, mais quand même, Lucho, je trouve que t'as poussé le bouchon un petit peu loin. Je t'explique. Je vais te dire très rapidement. Le problème, c'est que tu vas quand même convenir avec moi que le dopage, les tricheurs ont 2 ans ou 3 ans d'avance sur avant de se faire gauler.
Ouais, ça, c'est facile à dire, ça. Même si.
Quand même. On sait très bien que le dopage dans le cyclisme a toujours eu un petit peu d'avance avant de se faire attraper.
Il n'y a pas que dans le cyclisme, attention.
Oui, mais moi, Lucho, tu fais partie d'une génération où quand même tu as eu affaire à des gens qui ont été des tricheurs éhontés, on les a portés au pinacle et après on s'est rendu compte que c'était qu'ils avaient triché. On ne demande qu'à croire à la performance et qu'à s'enthousiasmer, il n'y a pas de problème. Mais avoue que dans ta discipline, on s'est quand même rendu compte depuis des années que les bras nous sont tombés parce que tous les gens qu'on avait portés au pinacle, au final, c'était des tricheurs. Là, après, Froome, il n'y a pas de souci, ça peut être un grand pro, un grand champion. Je pense que, je sais pas qui l'a dit l'autre jour. Thierry,
on va laisser répondre Lucho, Pierre.
Non, mais juste pour finir.
Rapidement.
C'est que déjà, le truc, c'est que moi, ce qui me perturbe aussi, c'est que la Sky aussi est quand même super costaud. Et ça m'embête un petit peu parce que tu te dis que dans un cas de dopage, en général, c'est des équipes qui sont toutes dans la même histoire. Et encore une fois, et la dernière chose, c'est que quand tu vois Froome partir comme une mobilette, ça me perturbe. Tu peux voir Eddy Merckx,
Pierre, on va laisser
des gens, mais quand tu vois un mec donner un coup de pédale et partir comme une mobilette, on ne peut que se poser des questions. On ne peut que se poser des questions. Et tout ça encore au vu de l'histoire de ta discipline et de ce qui s'est passé. Et je ne comprends pas que tu réfutes et que tu balayes d'un revers de manche les questions que peut se poser quelqu'un aussi respectable que Cyril. Voilà.
Merci beaucoup, Pierre. On va donc laisser répondre Eluccio et Bourgui.
Bon. Vas-y Thierry, parce que là j'étais dans les tweetos avec Christophe. Ah, alors,
Non, mais c'est, mais voilà, mais moi ce que je reproche un petit peu à tout ce qu'on a dit là tout à l'heure, et cet engouement, ce montage, c'est vrai que les gens se sont interrogés, mais c'est tout à fait normal qu'on s'interroge. Moi, le premier, je me suis interrogé comme je me suis interrogé par le passé. Du temps d'Armstrong, sans le dire ouvertement. Là, on s'interroge. Bon, ça fait des tweets, ça fait tout ce que ça veut, et ça fait une affaire avec la Sky. Et aujourd'hui, ça tombe, c'est en train de tomber un petit peu le soufflet. Et ben, c'est la Sky qui vient agresser les journalistes et surtout les journalistes français ou consultants français. Bon, c'est dommage qu'ils arrêtent de jouer les veuves effarouchées et puis de on s'interroge, voilà, c'est tout. Il y a pas de
après, ce sont pas de des problèmes. Accusations encore une fois, ce sont les interrogations,
mais voilà, interrogations,
et c'est quand même
très
différent. Il y a pas d'accusation,
comme j'ai dit au départ, il y a pas un cas de dopage aujourd'hui, donc il y a pas à mettre quelqu'un sur l'échafaud. Mais si aujourd'hui on peut plus parler simplement, bon bah c'est pas la peine. Moi je suis pas d'accord avec Lucho, d'accord, mais on peut s'écouter mutuellement quand même.
Et après, on peut ne pas être d'accord, on peut discuter de tout ça. En revanche, c'est vrai que aller jusque au jet d'urine là, qui a eu lieu, ça c'est autre chose.
Hein. Ça, on
non mais voilà, on
la
met
bêtise,
bien,
on la condamne.
On dit bien qu'il y a deux choses différentes, c'est-à-dire qu'on peut discuter. En revanche, il y a des choses qui ne se font pas. C'est ce que Jean-Marc voulait nous dire au 32-16. Malheureusement, on est un peu pris par le temps.
Désolé, Jean-Marc.
Lucho, c'est quelqu'un qui était d'accord avec toi pour dire que qu'il faut faire attention parce que pour l'instant, Froome, on n'a rien prouvé contre lui, donc il faut faire attention. Voilà, je vais te laisser le dernier mot, Lucho, à ce propos.
Non, mais moi je reste sur mes propos. Alors c'est vrai qu'ils ont peut-être été un petit peu virulents, et je m'en excuse, mais c'est la passion qui parle avant tout et le cœur. Après, que certaines personnes n'aient pas compris le fond de ma pensée et de mes paroles, j'en suis vraiment désolé. Mais bon, j'ai eu une éducation dans ma vie, j'ai eu des parents qui m'ont éduqué, et je leur dois beaucoup. Et je parle avec mon cœur comme mes parents m'ont parlé avec leur cœur jusqu'à aujourd'hui. Et voilà. Donc je les aime très fort et je pense à eux. J'en profite, hein, Virginie. Voilà.
Ah bah oui.
Et simplement, je vais dire,
un petit bisou à Cyril.
Voilà.
Non. Mais ce que je veux dire là, c'est que je parle avec mon cœur et avec mes tripes. Voilà. Donc ça peut plaire ou ça peut pas plaire, mais voilà, c'est comme ça. Je suis comme ça et on me refera pas. Voilà.
Voilà. C'est du Lucho.
C'est du Lucho. Bourgui, pareil. Donc finalement, tout le monde parle avec son cœur. Demain, on va continuer à parler avec notre cœur, même
non,
si c'est
ma bouche, moi.
Même si c'est une journée de repos, pas pour nous. Hein. Vous serez là tous les deux à 19h avec Fred Adam, à 20h avec moi. Donc je vous dis à demain.
À demain, Virginie, à demain.
Salut Lucho.
Salut mon Bourgui. Salut.
Retrouver ton vieux pote.
Oui,
il est parti, il est à la douche là.
D'accord, mais on va pas se retrouver.
Et toi aussi, tu te mets sous la douche froide.
Et nous, dans un instant, on va partir à Zurich. Mohamed Bouafsi a beaucoup de choses à nous raconter. Il a assisté à la conférence de presse de Sepp Blatter à la FIFA. C'était un grand moment. Allez, à tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h31, on est ensemble jusqu'à 21h dans l'intégrale Tour sur RMC. Allez hop, il est temps de partir en Suisse. Mohamed Bouafsi a posé ses valises au siège de la FIFA à Zurich. Salut Mohamed.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous.
Alors tu es donc à Zurich pour le comité exécutif extraordinaire de la FIFA où Sepp Blatter, président démissionnaire, a pris la parole après toutes les affaires de corruption qui ont conduit à sa démission. Bon, alors, avant de parler du fond, on va d'abord parler de cette scène assez surréaliste où celui qui est encore président de la FIFA s'est pris tout un tas de faux billets sur la tête. Il faut que tu nous racontes ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ?
Mais en tout cas, c'était très étrange parce que ça a été une surprise aussi pour tous les journalistes. Parce que tu sais, Virginie, la FIFA, c'est un peu comme un bunker aussi, puisque à peine arrivé devant la FIFA, il faut montrer patte blanche, il faut se présenter, expliquer qu'on est journaliste.
et il y a une énorme porte à l'entrée de la FIFA. Et pour entrer dans la FIFA, il faut qu'un agent de la FIFA mette son doigt et que, en fait, le doigt soit reconnu par l'empreinte digitale qui permette d'ouvrir cette énorme porte. Et donc là, il y a eu un moment, on va dire, de flottement. C'est le moment où tous les journalistes sont entrés dans la FIFA. Bien sûr, avant ça, il y avait déjà un premier contrôle. On avait donné notre nom et donc on a pu rentrer dans la FIFA, on va dire. Et donc cette personne qui était pas très très loin de moi à ce moment-là est restée sans bouger, sans parler à personne. Et puis quand Seb Blatter est arrivé dans la salle de conférence, dans l'auditorium, et qu'il a commencé son discours, on va dire, cette personne s'est levée, c'est en fait un acteur anglais. On a su après que c'était un acteur anglais et a jeté des billets sur Seb Blatter. L'image était assez impressionnante et en fait a dit voilà, ces billets là c'est pour la Coupe du Monde de 2026, c'est pour la Corée du Nord. Donc ça a surpris tout le monde.
Je trouve ça assez drôle moi comme blague, hein, mais bon, oui, mais Seb Blatter pas trop visiblement.
Ça a pas du tout fait rire Seb Blatter, parce que c'est pas pour vraiment. Je ne pense pas que c'était pour la blague que ça a pas du tout fait rire Seb Blatter. Je pense sérieusement que Seb Blatter s'est senti en danger parce qu'il a senti arriver cette personne vers lui, qui s'est arrêté juste devant lui, et c'est là.
Ouais, il a eu peur en fait, c'est ça.
Il a eu peur. Il a eu peur vraiment. Et comme l'évoquaient certaines personnes tout à l'heure à FIFA, ça montre aussi certaines limites dans la sécurité de la FIFA. Ça veut dire que peut-être qu'un jour, une personne peut, pourquoi pas, prendre un risque et tenter d'entrer à FIFA avec quelque chose d'autre qu'une chose qui est un peu plus, moins sympathique que
des faux billets.
Voilà.
Voilà, c'est ça qui lui a fait peur. Bon, ensuite, il s'est remis quand même et il est venu parler vraiment. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a d'abord parlé de la prochaine élection du président. Ce sera donc en février prochain, hein, c'est ça?
C'est ça. Alors, juste avant, il a mis du temps à s'en remettre de ça parce qu'il est sorti tout de suite après la blague de l'anglais. Il est resté quelques minutes dehors et quand il est revenu, il nous a dit, en fait, qu'il avait parlé à ses proches et que ses proches lui avaient dit que, en gros, c'était pas de l'éducation, ce qui venait de se passer, que cette personne avait manqué d'éducation. Et là, il a pu enfin démarrer son discours. Et il a été plus ou moins humain, on va dire, Seb Blatter dans son discours. Il a évoqué sa maman décédée, il a évoqué sa famille, il a évoqué son envie d'en terminer avec le football. Et il a surtout donné cette date importante. Le futur président de la FIFA sera élu le 26 février 2015. C'était une volonté de Seb Blatter d'élire le plus loin possible, on va dire, le futur président de la FIFA. Alors que Michel Platini voulait que ça se fasse le plus rapidement possible, plutôt en décembre 2015, c'est Seb Blatter qui a gagné, on va dire, ce premier petit duel entre Michel Platini et Seb Blatter, puisque ça se tiendra en février 2016.
Alors il y a une question qui forcément brûlait les lèvres de tout le monde, même si il avait déjà dit non, je serai pas candidat, mais avec Seb Blatter, on n'est pas à un retournement près, donc on se posait quand même la question. On va l'écouter tout de suite, le président démissionnaire de la FIFA. Est-ce qu'il sera candidat?
Je ne serai pas candidat à cette élection. J'ai remis mon mandat à disposition. Il y aura prochainement un vote pour élire un nouveau président. J'insiste bien là-dessus. Je ne peux pas être ce nouveau président car je suis un vieux président. Je souhaite donc bonne chance à tous les candidats, y compris à Michel Platini.
Alors, c'est assez marrant d'ailleurs sa façon de dire, je trouve, parce que bonne chance à tous les candidats, y compris Michel Platini. Michel Platini qui s'est pas encore prononcé, hein. D'ailleurs, il le fera dans les 15 jours à venir, c'est ça Mohamed?
Oui, c'est ça, c'est en tout cas le message porté par l'entourage de Michel Platini. Michel Platini donnera sa décision dans les 15 jours, tout simplement parce que Michel Platini réfléchit encore. Alors, il était attendu aujourd'hui, Michel Platini, par tous les journalistes du monde entier. C'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, plus d'une centaine de journalistes aujourd'hui à la FIFA. On a pu apercevoir Michel Platini, les Virginie, ça a été très très bref, ça a duré quelques secondes, il était dans les coursives de la FIFA et ensuite s'est rendu directement jusqu'au parking pour récupérer sa voiture. Il ne s'est pas arrêté devant les journalistes, il n'est même pas passé devant nous. Pourquoi? Parce que Michel Platini ne veut pas encore parler, il a envoyé son porte-parole pour s'exprimer et pour donner sa position. Michel Platini va prendre sa décision dans les 15 jours actuellement.
Mais qu'est-ce qu'il fait hésiter pour l'instant?
Plusieurs choses. La première, tout d'abord, c'est que Michel Platini, c'est en tout cas l'image qu'on a, c'est que Michel Platini ne se présente pas à un combat, on va dire, sans être sûr de le remporter. Et donc, là, il n'a pas envie de prendre de risques, il a envie d'être sûr de gagner s'il part à l'assaut de la FIFA, on va dire. Et aujourd'hui, il y a 6 confédérations. Et ces 6 confédérations, sur ces 6 confédérations, 4 déjà, auraient déjà donné leur soutien à Michel Platini. Il faut savoir qu'il y aurait l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Asie. Bien sûr, il y a l'UEFA aussi, mais c'est le territoire compris, on va dire, de Michel Platini, et que l'Asie et l'Afrique encore se montrent réticentes à voter Michel Platini. Mais 4 sur 6, c'est quasiment déjà une victoire assurée pour Michel Platini. Donc, certaines personnes le poussent à y aller. Mais il y a aussi une réflexion vraiment personnelle. Michel Platini, on peut dire tout ce qu'on veut, que c'est un politique déjà, etc., que c'est quelqu'un qui est malin.
Mais c'est aussi quelqu'un qui aime un peu le foot quand même.
Voilà, mais avant tout, c'est quelqu'un qui adore le foot. Et c'est vrai, pour l'avoir croisé sur les terrains de foot, quand il rencontre un footballeur, il revient tout de suite à son premier amour, c'est le football, à discuter de terrain, à échanger plus sur le match. Et il a envie de continuer de regarder les matchs, il a envie de continuer d'aller sur des terrains de foot, il a envie de continuer même, j'ai envie de dire, à donner des Ligues des Champions, c'est à porter la Ligue des Champions à un capitaine qui remporte la Ligue des Champions. Donc, il n'a pas envie de s'éloigner du terrain. Et il sait que s'il devient président de la FIFA, il devient presque comme un chef d'État qui a un rôle très important, un rôle politique, un rôle de lobbyiste limite, avec des discussions partout dans le monde. Comme me le disait un de ses proches, Michel Platini, Madrid-Barcelone, plutôt qu'aller faire un voyage, j'ai envie de dire un voyage pour présenter le football au Bhoutan.
Oui, mais peut-être que justement, c'est aussi l'occasion de réformer un peu ce qu'est la FIFA, parce que bon, ce qu'a fait cette Blatter jusque-là, c'est donc faire ça, présenter le football partout dans le monde et faire des trucs pas forcément bien partout dans le monde. Alors que là, on sait bien qu'il faut réformer. Donc le fait que ce soit quelqu'un qui soit plus proche du terrain, c'est peut-être aussi l'occasion pour que la FIFA évolue.
Bah, on va dire que Michel Platini est l'homme qui a le plus de légitimité aujourd'hui pour être président de la FIFA, et c'est aussi pour ça que certaines personnes du monde du football le disent à Michel Platini, vas-y, présente-toi, va prendre la FIFA pour changer les choses, pour aussi donner une meilleure image du football, parce que si Michel Platini devient président de la FIFA, eh bien tout le monde dira que c'est une énorme différence par rapport à Sepp Blatter, c'est un ancien joueur, c'est une ancienne légende du foot. Donc c'est un mélange. Aujourd'hui, certains disaient dans son entourage, c'est du 50-50. Alors, pour connaître un peu les entourages en milieu du football, quand on dit 50-50, c'est surtout qu'on est à 70-30. C'est-à-dire que déjà, si on présente la chose...
Mohamed Bafsi, traducteur officiel football français.
Oui, voilà. C'est comme quand un directeur sportif vous dit c'est quasiment fait. Et si on dit déjà que c'est quasiment fait, c'est que c'est fait. Voilà. Donc, en gros, Michel Platini, là, son entourage, on les a sentis quand même beaucoup plus optimistes, on va dire, sur une candidature de Michel Platini. Sur une présentation de candidature de Michel Platini plutôt que l'inverse. On sent que son entourage veut que Michel Platini aille à Zurich dans l'objectif de se présenter officiellement, et que déjà, cette idée est dans la tête de Michel Platini. Aujourd'hui, il doit mener cette réflexion, et c'est lui qui les décidera tout seul.
Juste une dernière petite chose, Mohamed. Sepp Blatter a aussi parlé de réforme, hein, puisque c'est ce qu'on lui demandait. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait rire, c'est qu'il veut instaurer une limitation des mandats pour les dirigeants de la FIFA. C'est-à-dire qu'il trouve que c'est une très bonne idée pour ses successeurs, alors que lui, il est resté en poste depuis 1998, c'est-à-dire 17 ans. Mais alors, ça, ce serait plus possible.
Virginie, si on est un petit peu ironique, on a posé la question à Sepp Blatter. Et le sénateur a dit, j'ai été comme vous avant, j'ai été journaliste. Et il a même dit, pendant la conférence, qu'il voulait redevenir journaliste dans une radio. Donc voilà, donc il a dit après le 26 février de redevenir journaliste, c'est mon objectif. Et il a dit, comme un journaliste, j'ai réponse à tout. Eh bien, on a posé cette question à Sepp Blatter, et il a dit « Non, écoutez, ne parlez pas du cumul des mandats et surtout de l'âge limite pour être président de la FIFA. » Parce qu'il a dit « Ah non, moi j'ai voulu arrêter d'être président de la FIFA, j'ai même voulu présenter une loi pour éviter, on va dire, le cumul des mandats, une réforme du cumul des mandats à la FIFA en 2010 et en 2011. » Et il a dit que cette réforme avait été refusée par le comité exécutif de la FIFA, et surtout par une confédération, l'UEFA, donc l'Union européenne de football. Donc déjà, il a commencé à dire que c'était pas lui, qu'il fallait plus
grand défendre. C'est pas de sa faute, mais on comprend bien.
Et que c'est pas de sa faute. Voilà.
Merci beaucoup, Mohamed Bouafsi, en direct de Zurich. On te retrouve évidemment très vite sur RMC dans l'After, déjà avec Florent Gautreau à partir de 21h. On reviendra sur cette journée un peu folle à la FIFA. Nous, dans un instant, on va aller à Tignes avec Thierry Dussautoir, le capitaine du 15 de France en pleine préparation pour la Coupe du Monde. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h46 sur RMC. L'intégral tour, c'est jusqu'à 21h. Dans un quart d'heure, donc, ce sera l'after. Florent Gautreau va revenir sur ce qui s'est passé à la FIFA aujourd'hui avec notre envoyé spécial Mohamed Bouafsi. Et également sur la guerre, ce qu'on appelle la guerre des gardiens de but au PSG entre Salvatore Sirigu et Kevin Trapp, le nouveau venu. L'invité sera Christophe Lolichon, entraîneur des gardiens à Chelsea. Il a eu lui aussi sous ses ordres deux gardiens à peu près de même valeur et il a fallu trancher Thibaut Courtois et Petr Cech. On va donc en parler avec lui dans l'after. Mais pour l'instant, on va prendre un petit peu de hauteur. Tigne, la montagne, l'air frais et le 15 de France.
RMC Rugby 2015.
Laurent Depré suit la préparation des Bleus pour la Coupe du Monde. Salut Laurent.
Salut Virginie.
Alors tu les vois souffrir, s'amuser, se poser des questions et répondre aux tiennes. Laurent, tu as rencontré le capitaine de ce 15 de France, Thierry du Sautoir. On va l'écouter puis on se retrouve juste après.
Thierry, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, elle se passe comment cette préparation extrêmement physique?
Elle se passe très bien, elle est intense comme elle avait été annoncée, mais on est tous conscients qu'on prépare quand même la Coupe du Monde, donc ça mérite une préparation exceptionnelle et bon, pour l'instant on n'est pas déçus.
Stage en altitude, bénéfice, pas bénéfice, en tout cas, vous travaillez énormément. Est-ce que vous commencez peut-être à ressentir déjà les bienfaits ou pas?
Non, pas réellement, on est arrivé mercredi ici, on a eu deux grosses séances de physique, peut-être que les sensations seront meilleures sur les prochaines journées. Après, je sais qu'ils vont changer l'environnement, on va monter encore un peu plus en altitude, donc on sera encore plus en difficulté, donc tout est fait pour qu'on continue à bosser, qu'on continue à progresser sur chaque séance.
Parce que finalement, là, ce dépaysement en altitude, ce crapahutage, le secret est bien gardé, hein, personne ne sait rien, il y a juste 2-3 personnes, même vous le capitaine, vous êtes au courant de rien.
Oui, sur les journées où on sera pas sur le terrain, non, on ne sait rien. Bon, ça sera la grande surprise. Bon, on verra bien. Ça reste un côté mystérieux à l'aventure. Bon, on sait que ça change un peu du terrain et de la salle. Donc, ensemble, on est tous quand même assez enthousiastes à l'idée de partir un peu et de prendre le grand air, même si ça s'annonce rugueux.
Thierry, c'est votre troisième préparation pour une Coupe du Monde. C'est un peu le principe de la crémaillère, quoi. C'est un cran en plus, on monte à chaque fois un peu plus, non?
Ben, j'aimerais bien, en tout cas, c'est l'objectif. Et je pense que c'est l'objectif de l'ensemble de l'équipe aujourd'hui, être encore meilleur que la dernière fois. Effectivement, ça va pas être simple, surtout quand on regarde un peu en arrière notre parcours, on sait que les choses n'ont pas été faciles pour nous ces derniers temps, mais en tout cas, l'équipe elle se prépare avec énormément de confiance, beaucoup d'enthousiasme, puis bon, on verra ensuite le 19 septembre face à l'Italie qui est dans le coup d'envoi de notre aventure.
Sans lever le coin du voile, sans trahir les secrets, est-ce que ça s'est mis en place, les capitaines de vie, la cagnotte, les amendes, finalement les règles de vie internes?
Oui, ça s'est mis en place très vite, et puis on va dire que l'intérêt aujourd'hui, ça a été d'investir tout le monde, que tout le monde soit quelque part, chacun son tour, responsable de la vie de groupe, pour que tout le monde se sente intégré au maximum. Et puis là, le terrain c'est une chose, la vie en dehors c'est une autre. Puis on peut voir que l'ambiance est bonne, tout le monde, malgré la fatigue et la rudesse de ce qui nous est demandé, tout le monde reste enthousiaste, donc c'est important. On a 2 semaines, peut-être que cette semaine là la fatigue va se faire ressentir et que les choses seront un peu plus difficiles pour tout un chacun, mais bon, si le collectif regarde cette bonne humeur là, je pense que ça aidera tout le monde à passer les obstacles.
Objectif champion du monde, tout le monde a ça en tête.
Je ne conçois pas entrer dans une compétition, on est un objectif inférieur à celui de la victoire, donc effectivement oui, on a cet objectif là en tête. Maintenant on se prépare pour ça, on voit que les autres nations ont déjà commencé à s'affronter sur le Four Nations. Nous on est encore dans une phase de préparation parce qu'on n'a pas le même fonctionnement dans notre championnat, mais on est très très heureux d'être là et alors on se prépare avec, comme je répète, pour la Coupe du Monde, la compétition qu'on attend tous depuis 4 ans.
Merci Thierry, bonne récupération, puis bonne nuit avec un S beaucoup de pluriel.
Merci, elles sont importantes ces nuits.
Alors on imagine évidemment, Laurent, ils sont fatigués là, les joueurs du 15 de France.
Eh oui, c'est le propre de la fatigue, c'est que ça fatigue, hein, effectivement. Et imagine un petit peu déjà le watt by, par exemple, cet instrument de torture qui permet d'enchaîner des sprints sans traumatisme pour les articulations, sans danger de chute. Au niveau de la mer, quasiment à Marcoussis, les gars explosaient, ils avaient les poumons collés, c'était affreux. Là, ils sont montés à 2100 mètres à Tignes depuis mercredi. Ils en font une fois, voire deux fois par jour. Et aujourd'hui, ils sont montés à 3032 mètres pour en faire une session hallucinante de fatigue. Ça, c'est juste pour le watt bike. Tu rajoutes les courses, les navettes, ce qu'on appelle le core training, c'est-à-dire le gainage profond. C'est incroyable. Et en plus, il y a des séances de rugby quand même.
Oui, c'est mieux quand même.
Oui, oui, le ballon, ils s'en souviennent, ils savent ce que c'est. On sait très bien qu'on joue pas au rugby en faisant du vélo, hein, ça c'est certain. Mais c'est la condition. Les nations du Sud, elles font ça pendant 3 mois, toutes les saisons, en avant-saison. Les Français, c'est tous les 4 ans et pendant 2 mois.
Mais moi, c'est ce que je me demandais. En fait, les joueurs du 15 de France font attention à ce qui se passe dans la préparation des autres équipes, de leurs concurrentes pour cette Coupe du Monde. Ils savent exactement qu'il y a autant de préparation physique, tout ça. Tout le monde le sait. En fait, il n'y a pas vraiment de secret là-dessus.
Ouais, tu sais, Virginie, on entend beaucoup de débats de gens qui suivent le rugby, qui aiment le rugby, pour dire « Oh là là, ils font du physique, mais quand est-ce qu'on va faire du rugby ?» Et le rugby, il a changé. Faire du physique, c'est avant tout le rugby moderne. Les Français, par exemple, là, ils ont eu de très mauvais résultats sur les 4 dernières années. Ils ont fait 4e, 6e, 4e du tournoi des 6 nations. C'est pas reluisant. Et ils ont encaissé pratiquement 70% de leurs essais dans les 10 dernières minutes de chaque mi-temps. Et le problème, c'est le physique. Effectivement, il y a le ballon, certes, mais le prérequis, c'est de le tenir le plus longtemps quand on l'a, et de tenir le plus longtemps quand les autres l'ont en défense.
Et alors, moi, la question que je me pose aussi, c'est que si on fait autant de physique que ça, est-ce qu'on risque pas d'aller vers un jeu stéréotypé, c'est-à-dire ce qui n'est pas le jeu habituel du 15 de France?
Alors, il y a deux façons de le voir, effectivement. On peut être tenté de faire un rugby presque puré. Le problème, c'est que, on va dire, à tactique égale contre des nations du Sud, hein, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, principalement l'Australie aussi, on risque de tomber contre un mur encore un peu plus conscient que ça. Par contre, ce qui est bien, c'est si le projet de jeu est là, on y rentre petit à petit, ce sera Falgo qui sera déterminant, plus les 3 matchs de préparation. Je suis pas en train de faire l'attaché de presse du 15 de France, hein. Je dis simplement que voilà. Ça a été prévu comme ça. D'abord, énormément de physique, ensuite du ballon au service physique, le physique ensuite au service du ballon. Et là, il y aura des combinaisons, il y aura des enjeux où on pourra parler réellement en rugby comme on l'entendait il y a 10 ou 15 ans.
Alors Laurent, on t'entend assez mal. Là, je ne sais pas où tu es, Danting, mais on ne t'entend pas très bien. Il y a Christophe qui nous appelle au 32-16, un supporter du 15 de France. Tu essaies de te mettre dans un coin où on puisse t'entendre correctement. Laurent, bonsoir Christophe.
Bonsoir Virginie, bonsoir à toute l'équipe.
En tant que supporter du 15 de France, est-ce que tu comprends qu'on fasse autant de physique avant une Coupe du Monde? Parce que là, ça fait 2 semaines qu'on ne parle que de ça.
Mais en fait, quand on pense que la Coupe du Monde est au 18 septembre, c'est comme si on préparait une saison, quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien commencer par le physique pour pouvoir enchaîner. Des exercices ensuite avec ballon et pour ensuite être prêt à des matchs de préparation. Il faut savoir qu'il y a 3 matchs de préparation pour l'équipe de France. C'est pas rien. Ils vont jouer 2 fois contre l'Angleterre et ensuite, je crois, l'Écosse. Il faut être prêt physiquement, ça c'est sûr, obligatoirement. On s'est aperçu que dans le tournoi destination et certains matchs de préparation, le bail blessait sur le physique et l'engagement. Donc ils sont à Tignes, ils vont bientôt être coupés des portables et des réseaux sociaux. Donc c'est vraiment pour créer cette union là quoi, hein, qui les regroupe comme ça. Ensuite, est-ce que nos Français ont l'habitude de travailler autant?
Laurent,
c'est la question que je me pose quoi.
Laurent va y répondre, hein, il suit les joueurs du 15 de France tout le temps. Laurent, est-ce que les Français ont l'habitude d'encaisser des charges de travail comme ça?
Tous les quatre ans, oui, sans problème, que ce soit en 95 avec Pierre Berbizier, à une époque c'était empirique, et il disait « si c'est dur à l'entraînement, ça vous paraîtra simple pendant le match », c'était une philosophie un petit peu martiale. Ensuite, ça s'est affiné parce que c'est devenu beaucoup plus scientifique et professionnel. Avec l'arrivée de Julien Deloire en 2011, on a vu le pic de forme des Français arriver presque trop tard. Heureusement qu'il y a eu la qualification miracle contre le Tonga, mais après, physiquement, les Français étaient vraiment au top. Malheureusement, ce n'est que tous les 4 ans. Pourquoi ? Parce que dans les clubs français, avec le top 14, anciennement la Heineken Cup, maintenant la Champions Cup, les saisons durent 10 mois et demi de jeu. Ce qui veut dire que les joueurs qui ont 4 à 5 semaines de vacances n'ont que 4 à 5 semaines de préparation d'une saison éreintante. Là, c'est différent. Il y a une convention entre la Ligue et la Fédération. La Ligue, c'est les clubs, c'est les employeurs des joueurs. Mmh. La Fédération, c'est celle qui aligne une équipe de France dans le tournoi Destination. C'est calamiteux depuis 3 ans. Là, en Coupe du Monde, on va dire comme tous les 4 ans, et ça, Marc Lévremont, Bernard Laporte, ils sont passés avant, on aura une équipe de France compétitive. On rappelle que le plus mauvais résultat depuis la création de la Coupe du Monde 87, c'est un quart de finale.
Oui, et on remercie Christophe d'avoir appelé le 32-16. Laurent, il y a une question qui revient quand même assez souvent et que pose Mr Cardwell sur le hashtag RMC Live. En foot, il y a 15 jours de préparation avant une Coupe du Monde. Pourquoi c'est 2 mois? Pourquoi c'est donc si long en rugby?
Alors, c'est long en rugby parce que le rugby, c'est de la boxe à 15 contre 15. C'est un sport de combat. C'est un sport où il y a des liaisons. C'est un sport où il y a des traumatismes qui sont monstrueux et qui sont totalement dans la règle. C'est un sport où on essaye d'éliminer physiquement son adversaire. Et si on n'a pas cette charge de préparation physique, charge sans aucune connotation autre que masse de travail et volume de travail, il y a un moment où on explose, on vole en éclats comme un pop-corn dans la saison. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont à 36 pour devenir 31 et que sur une feuille de match, ils sont 23 pour 15 titulaires. Ça veut dire qu'il y a quasiment la moitié d'une équipe que l'on remplace pendant une rencontre. C'est un peu ça la différence. C'est un sport de contact. Tout simplement, on ne peut pas jouer tous les 2 ou 3 jours comme au foot ou au basket.
Merci beaucoup Laurent Depré, notre envoyé spécial à Tink. Et continue à suivre la préparation du 15 de France. La Coupe du Monde, ce sera à partir du 18 septembre. Ce sera évidemment sur RMC. Florent Gautreau est arrivé en studio pour l'after. Ça va parler FIFA, ça va parler Sepp Blatter, tout ça.
La FIFA, effectivement, au programme de l'after. On va y revenir avec Mohamed Bouafsi, notre envoyé spécial, avec Chérif Guémour et François Manardeau. Et puis, on va parler des gardiens de but et de la guerre des goals au PSG. On sera avec l'entraîneur des gardiens de Chelsea, Christophe Lolichon, qui a un regard acéré sur le sujet. Plus, évidemment, les infos transferts du jour, le Mercato Show. Gros plan sur Guingamp ce soir, tout ça dans l'after qui arrive dans quelques instants. À tout de suite.